Ok. Alors, bonjour à tous, nous sommes de retour avec un nouvel épisode de Checkpoint, le podcast où des passionnés partagent leur expertise pour élargir vos horizons sur différents sujets, un mercredi sur deux à 8h du matin, j'ai changé l'horaire, et aujourd'hui on accueille Jade. Jade, comment ça va?
Bah ça va bien et toi?
De ouf. Alors, pareil un peu que les invités d'avant, on se connaît bien, hein. Voilà, on est plutôt complice. On va commencer par une petite première question un peu tranquille pour démarrer, pour se mettre dans le bain. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier et pourquoi tu trouves ça intéressant de venir en parler ici?
Du coup, le métier d'infirmier, c'est un métier qui a été hyper vu pendant la période du Covid, sauf que personne ne savait vraiment ce qu'on y faisait. Et dès que le Covid s'est un peu calmé, d'un coup, plus personne n'en parlait. C'était un métier qui n'a jamais été vraiment très connu. Tout le monde pense, allez, on pose des cathéters, on fait des prises de sang, ça s'arrête là. Sauf que c'est un métier qui va beaucoup plus loin, qui a beaucoup plus de missions que ça. Donc, ça reste hyper important et je pense que c'est important que tout le monde sache.
Ok, c'est super cool. Tu as déjà utilisé des mots techniques. Donc, alors là, vu que tu vas beaucoup parler en mots techniques, je vais te demander à chaque fois, si tu ne le fais pas, de les expliquer pour les gens, parce que même moi, il y a des mots qu'il va falloir que tu m'expliques. Nickel. C'est super comme première réponse. Hein, ça sent la réponse préparée. Donc, on peut direct passer à la deuxième question. C'est bien plus rapide qu'avec Nathalie. est-ce que tu aurais trois mots pour décrire le métier d'infirmière?
Je dirais relationnel, parce que c'est une grande partie du métier. Patience, parce que je pense qu'on travaille avec l'humain, donc la patience, c'est vraiment un truc primordial. Et soit l'empathie. L'empathie, parce que on est obligé de l'être dans ce métier.
Donc, en fait, c'est un métier bien plus social, en fait, que... Est-ce que c'est plus technique ou social?
C'est vraiment médico-social. C'est vraiment un des métiers où on est entre les deux. Tu peux pas faire du médical si t'as pas le côté social. T'es obligé d'allier les deux pour vraiment réussir à t'occuper de tes patients.
Enfin, c'est dans le métier d'infirmière, mais est-ce que... Enfin, t'as d'autres métiers où... En fait, plus tu fais des études, du coup, plus c'est technique et tu perds ce côté relationnel?
Je pense que oui. Dans les études de médecine, ils ont pas les cours que nous, on a sur l'humain. Les cours vraiment sur la psycho que nous, on a pour travailler avec l'humain, ils ont pas ça. Donc, ils sont pas aussi... ils peuvent pas s'adapter autant que nous aux situations comme ça, où c'est compliqué psychologiquement pour les patients.
Ok. Alors, une question un peu plus personnelle. Pourquoi tu t'es dirigée vers ce métier, en fait?
Alors, à la base, moi, mon père, il est infirmier, donc depuis plus de 40 ans maintenant. Et quand j'étais en terminale, il m'en avait parlé au début de vouloir faire infirmière parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire soigneur animalier à la base, ça n'avait rien à voir. Et je pouvais pas parce que j'étais trop jeune pour faire ces études-là. Donc, il m'a parlé du fait de faire infirmier parce que, oh là là, t'auras du travail tout le temps, t'as un salaire qui est quand même bien.
Pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, t'auras toujours du travail.
Et moi, je l'ai super mal pris. J'ai dit non, mais c'était hors de question que je voulais pas du tout faire ça. Et au final, après, il y a eu un événement de vie qui a fait que j'ai été confrontée, moi, dans ma famille, à la maladie, au fait de devoir prendre soin des autres, enfin, que des infirmiers prennent soin, moi, c'était mon grand-père. Et au final, j'ai pas, moi, pu être là pour lui, parce que c'était période Covid, donc moi, je pouvais pas être là. Et ça m'a fait prendre conscience que je voulais m'occuper des gens, des patients, des familles des gens, comme moi, j'aurais voulu qu'on s'occupe de lui, du coup, avant que lui parte.
Donc, en fait, t'es devenue infirmière grâce au fait que les infirmières que tu avais pu voir, t'avais fait, on va dire, bonne impression.
C'est ça.
Même si c'était dans un contexte bien, bien triste, mais dans l'idée, c'est OK. OK. Quelles sont pour toi les qualités pour être infirmière?
Alors, il faut avoir énormément de qualité au niveau de l'écoute. Parce qu'il faut savoir écouter ses patients.
OK.
Faut savoir trouver les bons mots aussi, ça c'est compliqué, je pense que ça vient aussi avec l'expérience. Se trouver les bons mots, c'est compliqué.
Parce que les mots que tu peux dire peuvent varier totalement d'une personne à une autre.
Ouais. Parce que les mots blessent et c'est des situations où les gens sont vraiment très vulnérables. Donc il faut vraiment faire très attention à tes mots. C'est vrai que moi, à mon âge, là je prends en charge des patients qui sont parfois hyper âgés. Moi je suis là, j'ai 19 ans. Il y a des mots parfois à pas dire. Ou il y a des choses où des fois le silence, c'est mieux que les mots. Donc il faut faire très attention à ça. L'empathie.
Là, pour l'instant, tu es très jeune, on n'en a pas vraiment parlé, mais donc t'es infirmière à la fin de l'année, enfin en juillet, parce que tu es encore étudiante infirmière. Donc, est-ce que tu sens que cette expérience-là, forcément, j'imagine que t'en manques un peu, mais est-ce que tu vois déjà une progression? Bon, elle est là forcément, mais dans le social, entre tes réponses avant, maintenant, est-ce que t'as des réponses, on va dire, plus préfaites selon le type de personne, ou c'est toujours différent?
Par rapport à quand j'ai commencé mes études, déjà quand j'ai commencé mes études, je parlais quasiment pas. Déjà rien que rentrer dans la chambre d'un patient, lui dire bonjour, ça me faisait peur. Alors que là maintenant, je le calcule même plus. C'est naturel, c'est le relationnel, je me pose pas du tout de questions dessus. Je sais, je réfléchis pas. Je le fais, je parle je réfléchis pas. Après, il y a des situations délicates où on a des phrases qu'on essaye de redire quand c'est des situations de fin de vie ou quand il vient d'avoir un décès pour parler à la famille. Il y a des choses qui reviennent parce que tu peux pas dire n'importe quoi et t'es obligé de garder des phrases assez fortes, déjà formées de base pour pas faire de mal à la famille et que ça les touche pas trop.
Donc ouais, c'est là où, enfin c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, le silence parfois vaut mieux que des mots. C'est que dire le mauvais mot, c'est bien pire que de ne rien dire.
Ouais.
Donc c'est hyper intéressant parce que trouver le bon mot, ouais, c'est même dans ton métier où même tu as plus l'habitude que des gens comme nous, comme les gens qui écoutent ce podcast, ça reste très compliqué parce que bah, quelqu'un en fin de vie, c'est toujours différent à gérer.
Même avec l'expérience, c'est compliqué.
Même avec l'expérience.
Ouais.
Même
j'ai été avec des très vieilles infirmières au niveau, enfin vieilles infirmières dans le sens où ça fait très longtemps qu'elles ont été diplômées. Et il y a encore des fois où elles bégayent, où elles n'arrivent pas à trouver les bons mots et où même elles sont démunies face à ça.
Ah, c'est dur. Est-ce que tu as déjà, j'imagine que oui, mais ressenti cette sensation d'impuissance face à une situation?
Oui. Quand tu vois les patients que tu aimerais sauver et que tu ne peux pas, le patient est en train de mourir devant toi, toi, tu vois la famille qui en souffre et tu ne peux rien faire. Tu aimerais pouvoir faire plus, mais tu ne peux pas.
Et est-ce que, je continue de rebondir là-dessus, est-ce que donc tu as une vision, on va dire, de la mort, hein, on va parler clairement, différente à cause de ton ou grâce à ton métier d'infirmière?
Je pense que oui, parce que j'y ai été beaucoup confrontée. Déjà, dans ce métier, t'es beaucoup confrontée. Moi, à mon âge, j'y ai été beaucoup plus confrontée que la plupart des gens qui ont mon âge.
Ouais, bien sûr.
Et c'est vrai que tu travailles avec l'humain et tu peux passer d'une chambre à une autre. Enfin, quand t'es face à quelqu'un qui est décédé, t'as une toute autre vision de la personne et t'as un respect qui est différent. C'est vrai que moi, j'ai établi des rituels après par rapport à ça, pour m'occuper des personnes qui décédaient. J'ai une vision du corps, de la mort qui corrompt pas les gens qui travaillent pas là-dedans.
Bien sûr. Ouais.
Ils ont pas du tout. Ils font pas ce que moi je fais avec les gens quand ils viennent de partir.
Donc, t'as l'impression d'avoir perdu ce. Parce que c'est quand même quelque chose de très spécial. Est-ce que tu sens que tu as plus cette appréhension de la mort, c'est quelque chose de spécial parce que tu vis avec, en fait, dans ton métier?
Pour moi, c'est ça. C'est ça, je ne le vois pas comme quelque chose de spécial parce que je l'ai beaucoup trop vu. Donc okay. C'est plus spécial. Par contre, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas m'appliquer et avoir énormément de respect à chaque moment. Ça, par contre, la prise en charge de la personne avant qu'elle meure et après son décès, ça reste quelque chose, ça me tient énormément à cœur. Je trouve que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui se respecte.
Et bah, justement, pour ça, ça dépend aussi du service dans lequel tu travailles, mais on y reviendra juste après. Je vais te poser une autre question. C'est quelles sont tes principales missions en tant qu'infirmière? Parce qu'en vrai, justement, tu l'as dit dès le début, c'est pas que poser des cathéters et faire des prises de sang. Donc, quelles sont tes missions pour que les gens sachent?
Déjà, au niveau des médicaments, on ne fait pas que donner les médicaments. On sait à quoi correspondent tous les médicaments normalement qu'on est censé donner. On surveille tout ce qu'on donne. On fait très attention. On soulage la douleur. Mais on les hydrate, on les nourrit quand ils ne peuvent pas se nourrir. On les aide, on fait aussi un peu le rôle d'aide-soignant en soi. On fait les deux parce qu'à la base, un infirmier, à la base, c'était un aide-soignant. Il n'y avait pas d'aide-soignant au début. Donc l'infirmier, il faisait les deux rôles. C'est juste que maintenant, ça s'est élargi. Donc on fait tout, on fait les toilettes, on fait les lits, on s'occupe d'eux, on fait les pansements, on fait les réunions avec les médecins, on fait les annonces avec les médecins. Enfin, tu fais énormément de soins techniques. C'est tellement large, tu fais les papiers, tu t'occupes des transports, tu t'occupes des examens, tu fais tout. Tu coordines vraiment tout. Hein. Le métier d'infirmier, c'est vraiment un métier où tu coordines tout. Tu es un chef d'équipe et tu es vraiment le maillon qui réunit à peu près toute l'équipe pluridisciplinaire.
Ok. Tu as parlé un peu du métier d'aide-soignant. Donc, le métier que tu as pu exercer parce que tu peux le faire après un an d'études d'école d'infirmière, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux expliquer les grandes différences que tu as entre aide-soignant et infirmière-infirmière?
L'aide-soignant, il a le droit de faire beaucoup moins de choses. L'aide-soignant... En moyenne, c'est celui qui va faire les constantes le matin. Enfin, les constantes, il va prendre la tension le matin. Voilà, c'est lui qui va faire ça pendant que l'infirmier, lui, fait le tour des médicaments. Mmh. Ils sont tous les deux ensemble. C'est un travail en binôme la plupart du temps. L'aide-soignant est rarement sans son infirmier. Tout ce que fait l'aide-soignant, il le dit à l'infirmier parce que tout a un impact.
Okay,
donc, les deux travaillent en binôme. Mais après, l'aide-soignant, il fait aucun soin technique. Donc, il fait pas de pansement. S'il y a un problème avec le cathéter, l'aide-soignant, officiellement, il a pas le droit d'y toucher.
Ok. Mais pour autant, c'est quelqu'un de très important parce qu'il gère totalement le travail d'équipe.
Ouais, il est au contact du patient tout le temps. Donc en fait, s'il y a quelque chose qui ne va pas sur le patient, il va le voir tout de suite. S'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la couleur du patient, il voit qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est grâce à lui qu'il va le voir.
En fait, il sert d'alarme. Voilà, c'est
vraiment
moderne. D'accord, ok, c'est hyper cool. Enfin, pas. Il y a des trucs un peu tristes qu'on parle depuis tout à l'heure, mais dans l'idée, ce que tu racontes, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai une petite question. Bah justement, on en a parlé un peu avant. Tu as différents domaines où tu peux exercer en infirmière. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns?
Alors, tu peux travailler en courte durée. Donc, tout ce qui est courte durée, ça va être l'hôpital, donc public, les cliniques privées. Donc, c'est tout. Tu auras la chirurgie, les urgences, tout ce qui est la réanimation. Déjà, rien que là-dedans, il y a beaucoup de diversité. Réanimation, urgence, tu auras des soins techniques que tu n'auras pas dans les services de médecine.
Mmh.
Tu as des services de médecine très spécialisés. Par exemple, tout ce qui est cancéro, c'est très spécialisé. Tu ne feras jamais la même chose qu'en médecine générale. Après, tu as la psychiatrie. Bah, la psychiatrie, c'est un monde à part. Les soins techniques, tu peux les oublier. La psychiatrie, c'est beaucoup de relationnel, beaucoup d'activités. C'est vraiment la santé mentale, vraiment pure.
Mmh.
Tu ne feras pas grand-chose d'autre, mais c'est hyper intéressant et t'aides vraiment les gens d'une autre façon. Après, tu as le libéral. Le libéral, tu vas chez les gens. Donc après, il ne faut pas compter tes heures. En
Ouais.
libéral...
Mais est-ce que tu as tendance, du coup, à être mieux payé en libéral?
Ouais.
Oui. Oui.
Largement. Largement, ils sont payés à l'acte. Après, le salaire est très bon, mais ils enlèvent énormément dans leur salaire. S'il y a beaucoup de choses à payer à côté.
Ouais, bah la
Ils
voiture...
financent tout.
Ok.
Donc, mais le salaire reste quand même, je pense, 2 à 3 fois plus élevé en fonction de la tournée
Ah oui, d'accord, ok.
qu'un infirmier en structure. Ouais.
Okay. Ah oui, donc c'est vraiment une big différence.
Ouais.
Okay. Toi qui nous as parlé un peu de différents domaines, tu as pu en tester beaucoup, peut-être même tous, non?
Oui, tous. On est obligé de passer par là.
Est-ce que tu pourrais me dire lequel tu as le moins aimé? Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais lequel tu as le moins aimé, lequel tu as le plus aimé?
Bah après, moi, c'est spécial parce que du coup, j'ai l'expérience en tant qu'étudiante. Donc, l'équipe qui m'a encadrée joue beaucoup aussi parce qu'en tant qu'étudiant, voilà, on répond aux honnêtes. Voilà, donc, quand les patients ont besoin de quelque chose, ils sonnent. Quand tu es étudiant, c'est à toi de répondre aux honnêtes. Donc, il y a eu
Ok.
des stages où en SSR, donc c'est tout ce qui est soins de suite et de réadaptation. Donc, les gens après les opérations qui peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils sont trop faibles, ils vont dans ce genre de structure-là.
Ok.
Bah, dans ce genre de structure, t'en as où c'est un peu moins passionnant, où tu fais pas grand-chose, où tu fais justement quasiment que des toilettes et où bah, t'as pas de soins, même le relationnel est pas forcément fou. Ça me plaît un peu moins. Alors
Ok.
que tout ce qui est urgence, ça bouge, c'est... T'as de l'adrénaline, c'est extra.
Bah justement tu as un peu parlé de l'urgence donc c'est le truc qui te fait le plus vivre, qui te stimule le plus mais est-ce que on en a un peu conscience maintenant plus qu'avant, mais est-ce que les conditions de travail sont si problématiques qu'on le dit? Oui.
Oui, le manque de personnel, même le manque de médecins, enfin, il y a beaucoup de... Enfin, le manque de médecins, ça nous impacte énormément, nous aussi, en tant que soignants, parce que
Mmh.
du coup, l'ambiance fait que tu as une mauvaise ambiance de travail, donc tu prends pas plaisir à travailler. Aux urgences, il y a une pression folle, tu as tellement de patients, hein, tu peux pas tout gérer. Les patients, ils s'énervent contre toi, enfin, contre toi, il y a des violences verbales, des fois physiques. Tu fais plus d'heures que ce que tu devrais. Parce que si les patients ont besoin, qu'il y a une situation sur le moment qu'il faut gérer, bah, tu comptes pas ton heure.
Ouais, ah, t'es obligé de...
T'es obligé d'être là.
T'es obligé d'enchaîner et parfois tu peux faire des journées au lieu de... Donc toi tu fais des journées de 12 heures quand tu travailles en urgence et au final elles se transforment plus en 13-14 heures les journées. D'accord. Ensuite, je vais te poser la fameuse question IA que je pose à chaque épisode. Donc tu verras que je vais la lire littéralement parce que c'est plus difficile pour moi. Parce que même moi j'ai un peu du mal à comprendre la question, mais quand je l'ai lue, je me suis dit qu'elle pourrait être intéressante. C'est comment abordez-vous, parce que l'IA te vouvoie, comment abordez-vous la communication avec les patients et leurs familles pour assurer une compréhension claire et un soutien efficace?
Alors, je dirais la reformulation. Dans un premier temps, la reformulation.
Ok.
Quand tu vas... Enfin, par exemple, le médecin va faire une annonce à un patient, une annonce de diagnostic ou de tout ce que tu veux. Souvent, le patient ne comprend strictement rien. Parce que le médecin parle vite, car le médecin, c'est impressionnant. Et il a quand même fait 10 ans d'études, le type, donc
Ouais.
ça impressionne. Et toi, tu arrives après et tu demandes au patient ce qu'il a compris. Et là, en fait, tu te rends compte que le patient n'a rien compris. Et là, tu demandes, mais en fait, qu'est-ce que vous avez compris? Et tu vas répéter ce que lui a dit. Tu vas reformuler ce que le médecin a dit. Et reformuler ce que le patient a dit. C'est hyper important de toujours essayer de savoir ce que le patient pense et ce que le patient a compris. Parce que sinon, tu vas partir dans deux discussions complètement opposées, tu vas pas du tout penser à la même chose et
Mmh.
tu vas taper complètement à côté de ce qu'il faut. Faut vraiment, au niveau des besoins du patient, faut vraiment bien identifier les besoins. Et ça, je pense que ça vient avec l'expérience.
Identifier les besoins des patients, donc
Ouais.
tu sens que toi tu as encore un peu de mal là-dessus
Ça
par
va.
ton inexpérience, si j'ose dire. Bon, j'abuse évidemment sur le terme. Ok, c'est très clair. La reformulation, j'avais pas pensé de cette manière, mais ouais, c'est vrai que c'est important que la personne ne soit pas dans le flou pour un proche, savoir oui, bah pourquoi il est à l'hôpital, pourquoi ça fait 2 jours que vous le gardez. C'est ouais, c'est important de qu'ils comprennent pourquoi il est là.
Ils ont un besoin de compréhension. Souvent, il y a un manque d'information folle. Enfin, souvent, les personnes nous le disent, en fait, ce qui les stresse le plus, c'est de ne pas savoir. Des fois, les patients, ils sont hospitalisés pendant une semaine, ils n'ont pas leurs résultats d'examen, personne ne leur dit rien. Et toi, tu te retrouves comme un idiot devant eux. Et bah, il faut savoir quoi dire. Tu ne peux pas te
Ok.
permettre de dire les mauvaises choses.
Et tu m'as dit avant de dire reformulation, tu as dit dans un premier temps. Est-ce qu'il y a d'autres étapes dont tu peux nous parler?
Mais en fait, c'est très compliqué parce que souvent, ça se calcule pas. C'est très naturel.
Ok.
Quand tu t'occupes de tes patients, c'est très naturel. Tu vas t'adapter à la personne parce que tous les humains sont différents et ils ont des façons de fonctionner qui sont très différentes. Donc moi, je pars sur une base où je suis authentique. C'est l'authenticité. C'est un principe pour moi très important. Donc
L'honnêteté
je suis
aussi.
moi-même. Ouais, je suis
Ok.
moi-même. J'adore. Enfin, il faut être souriant. Moi, j'utilise beaucoup l'humour. Bon, après, faut savoir l'utiliser aussi. Ça, j'utilise pas tout le temps. Mais c'est aussi un mécanisme de défense. Ça nous protège, nous aussi, pour garder une distance avec le patient, avec les situations compliquées.
Donc même à ce moment-là, ça t'est déjà arrivé de faire de l'humour, peut-être pour certaines personnes déplacées, mais pour toi, juste pas, c'est pas dans un mauvais dans une mauvaise intention, mais plus pour oui, te protéger
Ouais.
de créer la. Bah justement, on reviendra un peu après là-dessus sur la tâche que tu peux avoir avec certains patients. Donc la prochaine question que je vais te poser, c'est une question qui est plutôt cool et qui est actuelle, je pense. Est-ce que des choses ont-elles changé grâce aux nouvelles technologies?
Ouais.
Je parle pas forcément de l'IA, mais est-ce que tu as vraiment vu des changements? Bon, après, vu que tu es très jeune dans le métier, tu n'as peut-être pas vécu ces changements directement, mais vu que ton père était infirmier, tu as pu un peu en voir les différences. Donc, quelles sont-elles? Voilà.
Déjà par rapport aux opérations, les trucs qui sont fous, c'est les opérations avec les robots. Les opérations avec les robots,
Attends,
c'est juste
ça
exceptionnel.
existe vraiment?
Oui, j'en ai vu.
Ok.
J'en ai vu vraiment, j'ai vu des opérations où tu as un robot avec des trocars dans le patient, donc tu as vraiment. T'as le ventre du patient, tu gonfles son ventre et d'un coup, tu mets des instruments à l'intérieur que tu relies à un énorme robot qui fait à peu près toute la salle d'opération. Et de l'autre côté de la salle, tu as le chirurgien qui a les yeux dans des petites jumelles en
Ouais.
3D et il a des espèces de petites manettes et c'est avec ça qu'il va opérer. C'est beaucoup plus précis, ça a une précision, c'est incroyable à voir. Après, il faut une formation
Bien
spécifique
sûr.
parce que forcément, tu as l'habitude d'opérer avec tes mains, mais c'est beaucoup mieux.
Et tu penses que ça peut remplacer à terme certains métiers dans le médical?
Dans la pharmacie, je pense, parce qu'il y a des robots aussi qui gèrent des fois les pharmacies, en psychiatrie beaucoup, qui gèrent les médicaments. Le problème, c'est que tu peux pas vérifier du coup ce que tu donnes quand c'est les robots qui s'occupent des médicaments, et ça, c'est un gros problème. Parce que
Ok.
quand donner le mauvais médicament, ça paraît hyper anodin. Hop, tu te trompes de médicament, ça va, mais ça peut tuer.
Ok, ouais, à ce
C'est.
niveau-là, parce que
Ouais.
pour quelqu'un de lambda comme toi et moi, par exemple, un lambda, tu m'as compris,
Oui.
un mauvais médicament, ça va être plus compliqué de nous tuer, quoi. Surtout qu'on est un peu
Ça.
à force de l'âge. ok. Donc, il y aura des changements, il y en a déjà, mais il y a encore le temps.
Oui, c'est ça. Puis moi, je suis arrivée, il y avait déjà des changements quand je suis arrivée.
Ah
Enfin,
ouais?
moi, c'était il y a 3 ans, donc en soi, moi, ça avait déjà commencé bien avant que j'arrive.
Ouais, c'est vrai. Donc là, on va passer sur un truc un peu plus fun pour toi, j'imagine. Est-ce que tu peux nous partager ta meilleure expérience pour l'instant?
En vrai, c'est compliqué parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de bonnes expériences. C'est avec les patients. Quand tu as une reconnaissance des patients, tu les vois se rétablir. Tu vois que tu as vraiment réussi. Enfin, j'ai des patients qui étaient dans un état physique, mais pas possible. Et au fil de l'hospitalisation, je les ai vus reprendre des forces, reprendre le sourire. Et quand ils me disent, oh là là, mais vous êtes un rayon de soleil, heureusement que vous êtes là, mais vous êtes trop gentil. Enfin, c'est une reconnaissance, ça a pas de prix. Moi, je
Bah,
trouve ça
justement,
exceptionnel.
c'est une phrase que tu dis souvent. Tu dis, à défaut d'être mal payé, parce que c'est un fait, on est payé en reconnaissance. Donc, ouais, et la reconnaissance, c'est un truc très important. En termes d'éthique, ton métier, il est au top. Donc, ça doit faire vraiment du bien. Donc, la meilleure expérience, en fait, c'est plutôt un sentiment que tu ressens quand les patients vont mieux. Enfin, dans la plupart des cas, j'imagine
Ouais,
qu'ils vont
quand t'arrives
mieux.
à être utile.
Quand tu te sens
Quand tu
utile.
te sens utile, ouais.
Ok. Est-ce que tu pourrais me dire quel a été l'un de tes plus grands défis dans le métier d'infirmier?
J'aurais tendance à dire, ça a été le premier décès. Les premiers décès, c'est compliqué. Quand
Ok.
t'arrives, tu sais pas comment réagir. Tu tu sais pas, c'est pas naturel d'être face, de devoir gérer comme ça quelqu'un qui est plus là devant toi.
Mmh.
Ça a été compliqué. S'il faut gérer sur le moment, tu restes le coordinateur. Donc, il faut quand même gérer tout ce qu'il y a autour. C'est à toi de t'occuper des papiers, la famille. Il faut réussir à tout gérer, mais il y a toi aussi derrière. Donc, il faut réussir à te gérer toi. Donc, il faut mettre toi, tu mets tes émotions de côté sur le moment. Enfin, c'est un peu des moments hors du temps.
Et c'est dur de toujours se mettre à côté. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de retenir tout pour toi et d'arriver chez toi et de tout relâcher?
Ouais, ça m'est arrivé en première année d'études. J'ai eu un décès et ça a été très compliqué. Et je me suis retenue de pleurer. Je suis sortie de la chambre du patient, je me suis retenue. Et puis, je suis rentrée c'était le tour des médicaments. Donc, il fallait aller dans les autres chambres et sourire. Donc, j'ai fait mon tour en souriant, comme si tout allait bien. Et je suis sortie de mon heure. Mon père était venu me chercher parce que j'étais mineure. Donc, je ne pouvais pas conduire. Et il est venu me chercher. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée et j'ai fondu en larmes. Parce que c'était trop de pression que j'avais gardée. Mais tu n'as pas le choix parce qu'il faut s'occuper des autres.
Ouais.
Même si tu as un patient qui vient de mourir, tu en as 15 autres derrière dont il faut s'occuper. Et qu'on vient demander.
Donc, aujourd'hui, tu gères mieux la pression. Donc, mieux la pression, c'est ce que je viens de dire. Ok, bah c'est plutôt clair et c'est un grand défi. Enfin, toi, dans ton métier, tu y es confronté, mais c'est même un défi pour la plupart des gens. C'est un décès, passer outre, relâcher la pression. Donc, toi, c'est évidemment différent, vu que c'est ton métier. Mais oui, c'est un grand défi pour un peu tout le monde de se dire faut que cette personne n'est plus là et je la vois. Parce qu'en plus, toi, t'as ce côté-là, c'est que tu la vois, tu ne peux pas dire je la verrai plus jamais. Ok, d'accord. Donc, un peu avec ce que tu as dit juste avant, j'ai une petite question là-dessus. Est-ce que c'est dur de ne pas s'attacher aux patients?
Ouais, moi j'ai beaucoup de mal là-dessus. Je fais mon mémoire là-dessus par rapport aux émotions, à la gestion de nos émotions et au fait aussi de garder une distance professionnelle. Mmh. Parce qu'on nous dit qu'il faut garder une distance, donc tu laisses tes émotions au vestiaire souvent. On nous dit quand tu vas à l'hôpital, tu laisses tes émotions au vestiaire et après tu les reprends. Tu peux pas faire ça. Surtout là, en début de carrière, je suis jeune. Moi, les patients, des fois, t'es les seules personnes qui voient. Il y en a, ils ont pas de famille, ils ont personne. Toi, t'es là, tu leur apportes un peu de joie, un peu de bonne humeur. Tu les fais parler de leur vie, eux. Enfin, tu leur apportes tellement. Et eux, ils t'apportent aussi tellement, en fait. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Les patients qui... Je m'attache toujours à mes patients. Parce que je m'investis. Parce que je me donne à 100%. Et c'est vrai que je sais pas si j'arriverai à faire ça toute ma vie ou toute ma carrière. Parce que ça épuise.
Ah, c'est épuisant.
Ça épuise parce que ça te demande énormément d'énergie.
Mais en même temps, comme tu l'as dit, tu peux pas avoir... Enfin, ça prend 12 heures de ton temps sur une journée. Tu ne peux pas, pendant 12 heures, être une autre personne. C'est trop compliqué. Bah, bien sûr, bah, ouais, c'est clair. C'est difficile, mais est-ce que tu ressens une amélioration? Est-ce que tu sens que même si tu continues de t'attacher émotionnellement au patient, est-ce que tu arrives à te détacher aussi peut-être plus facilement?
Ouais. Parce que je sais que je peux pas ne pas m'investir à 100%. Parce que j'ai pas fait ce métier pour faire les choses à moitié.
Ouais.
Je suis pas là pour... Je peux pas juste être là, hop, je vais faire mon soin et tu vas pas bien, je vais pas m'occuper de toi. Psychologiquement, je m'en voudrais. Éthiquement, je peux pas laisser un patient qui psychologiquement va pas bien. Donc, je suis obligée de me donner à 100%. Mais au début, quand je rentrais chez moi, j'étais affectée, je pouvais pleurer chez moi. Là, maintenant, je rentre chez moi. Je prends un peu sur moi, voilà, je respire un coup et je finis par penser à autre chose. J'ai ma vie à côté, j'arrive à me concentrer un peu plus sur moi quand je rentre chez moi. Et c'est quelque chose que je faisais pas du tout il y a un an ou deux ans avant.
Donc en fait, les stages t'ont permis vraiment de t'améliorer là-dessus, plus que sur... En fait, le plus dur pour tes stages, c'est pas le côté technique, j'imagine. C'est plus en cours ou c'est plus difficile, ça, non? Et émotionnellement, le plus dur, c'est pendant les stages.
C'est ça, parce qu'après, en soi, un soin, c'est un soin. Hein. T'apprends à poser un caté, bon, un peu compliqué, mais il y a des soins, des fois, t'as même pas besoin de trop grosses techniques. On te le montre une fois, tu le fais deux fois, c'est bon. Okay. Le relationnel... Ça prend tous les jours.
Est-ce que tu aurais un mot technique à nous faire découvrir? Un mot technique, un mot un peu qu'on ne connaît pas ou alors que les seuls moments où on les entend, c'est dans des séries télé.
En vrai, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Il y a énormément de soins techniques. Parce que là, dans le service où je suis actuellement, il y a des soins techniques, mais c'est très particulier. Donc, je te dis, poser une aiguille de Hubert sur Pâques, t'as aucune idée de ce que c'est.
Tu viens de me perdre, bien sûr.
Voilà. Et pourtant, c'est hyper important pour tous les patients qui sont atteints de cancer et qui sont traités souvent. Ils ont un Pâques. C'est vraiment, c'est un dispositif qui, tu vois, les cathéters. Mm-hmm. Les cathéters, ça se change tous les 4 jours. Donc, t'es obligé de repiquer les gens tous les 4 jours.
Ouais.
Tu prends une chambre implantable. C'est quelque chose qui est relié directement au cœur. Qui est sous la peau, c'est un petit boîtier rond sous la peau. Souvent, tu peux le voir, tu peux le toucher à main nue.
Okay.
Et en fait, ça reste tu peux le laisser hyper longtemps, ce boîtier. Ce qui fait que t'es pas obligé de repiquer les gens. Et après, t'as une petite aiguille que tu mets dessus et c'est ce qui permet de faire des soins un peu plus invasifs.
Et ça, invasif, c'est quelque chose. C'est-à-dire?
Tu vois, les transfusions. Les transfusions, ouais. Les chimiothérapies, c'est très agressif, c'est très invasif. Et bah, quand tu le fais là-dessus, c'est mieux que de devoir piquer les gens tous les 4 jours.
Ok.
Et ça, c'est le genre de choses que tu vois pas tout le temps. C'est dans des services très spécialisés et c'est le genre de soins techniques que qu'on t'apprend en dernière année d'infirmière et que tu fais quasiment jamais, sauf si tu vas dans ce genre de service.
Sauf si tu vas dans tel service, ok. Ouais. Et est-ce qu'il existe, c'est une question qui me vient comme ça, est-ce qu'il existe un côté de l'infirmière où tu vas avec les pompiers, par exemple?
T'as le SMUR, enfin avec le SAMU. Après, t'as les infirmiers qui peuvent aussi bosser avec les pompiers. C'est une formation particulière. Ils ont une formation particulière. Après, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tente pas trop, mais on nous l'a présenté l'an dernière année. Donc, ils peuvent être avec les pompiers ou avec le SMUR. Ça te permet d'être sur le terrain.
Et pourquoi ça t'a pas énormément intéressé?
Parce que tu connais pas la personne. Tu vas intervenir face à quelqu'un qui est déjà en situation de détresse ou d'urgence, mais tu connais pas la personne, tu connais pas son histoire, tu peux pas épauler la famille si elle en a besoin.
Ok.
Et moi, c'est quelque chose, j'ai besoin de ce relationnel, être là avec les gens, pouvoir les écouter, être là pour la famille quand ils en ont besoin.
En fait, tu perds le côté du métier que tu préfères. Ok.
Tu perds un peu plus ce côté humain. Après, t'as l'adrénaline, c'est fou l'adrénaline. Hein. l'adrénaline, c'est un truc, quand tu le vis une fois, c'est une sensation, tu as du mal à l'expliquer. Ouais. Mais pour moi, ça suffit pas.
Ok. Bah, on est déjà presque à la fin de cet épisode de Checkpoint. Donc, la dernière question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui voudraient faire la même chose que toi?
J'irais de pas se laisser décourager par les études.
Ok.
Parce que c'est que 3 ans. Donc, souvent, moi, je sais qu'on me dit oh là, ça va, c'est que 3 ans, t'apprends à poser des cathéters, c'est terminé. Ou ça va, c'est pas médecine. Les cours sont faits par les médecins, donc faut pas se laisser décourager. Parce que. Tu te prends tellement de réflexions quand t'es étudiant infirmier ou même quand t'es infirmier.
Ah ouais?
Tu te prends des. Étudiant infirmier, t'en prends plein la gueule tout le temps. Mais faut prendre sur soi, faut pas se laisser décourager, faut prendre confiance. Parce que t'es jamais là par hasard. J'en connais pas beaucoup qui font ce métier par hasard. Tu peux pas te tenir dans le métier si t'as pas une vraie conviction derrière et un vrai truc qui te tient au cœur, qui te tient vraiment à cœur. Tu peux pas. Donc faut suivre vraiment ton cœur, suivre ce que t'as envie de faire. Et si t'as un doute, faut juste se rappeler de ce qui t'a amené ici.
Ok. Ah, donc c'est vraiment le. Ok, je pense pas que t'allais me répondre ça.
Ouais.
Mais la conviction, d'accord, ok, c'est le truc qu'il te faut le plus pour les études d'infirmière.
Ouais, okay. Il faut y croire.
Parce que c'est pas que lire, recracher du cours. Il y a tout le côté humain là-dessus. Et les cours, comme tu l'as dit, sont faits par les médecins. Donc, tu peux avoir des cours très très compliqués.
Ah, c'est horrible. Il y a des cours, c'était imbuvable. Il y a des cours, c'est imbuvable, c'est des cours de médecine des fois. Il y en a qui nous disent, on fait ces mêmes cours aux étudiants en médecine. On n'est pas médecin, nous.
Ouais, et c'est pas l'objectif, t'as pas envie de devenir médecin.
Non, vraiment pas. Donc, des fois, c'est compliqué.
Et t'as déjà vu des infirmières qui. Est-ce que si tu fais 3 ans d'études d'infirmière, après, tu peux enchaîner derrière sur une 4e année médecine?
Voilà, non, tu arrives en 2e année de médecine.
Ok.
Après, si tu fais une spécialisation infirmière, donc par exemple, les infirmiers anesthésistes ou les infirmiers de bloc, eux, une fois qu'ils ont fait leur formation, ils peuvent arriver directement en 3e année de médecine.
Et ça t'intéresserait à faire infirmière anesthésiste, par exemple?
Anesthésiste, non, parce que bah, t'intubes les gens, tu endors les gens. Bon, ouais. Voilà. Allez, c'est bonjour, au revoir. Il n'y a pas de. tu connais pas la personne, c'est toujours ça.
C'est ça.
T'as pas l'humain. T'as pas ce contact humain.
On revient souvent à ça, ouais. Avec toi, on revient souvent à ça. Donc, bah, ça veut dire que ça touche vraiment et que c'est ça le truc le plus important de ton métier. Et même pour les gens qui nous écoutent, c'est important aussi de savoir que infirmière, t'es pas un robot, quoi. Fou, un métier humain, c'est presque un métier. Enfin, c'est le métier le plus social de la santé. En fait, t'es presque comme éducateur spécialisé, mais avec des soins.
De toute façon, si tu parles pas au patient, si le patient il va pas bien psychologiquement, si tu viens pour lui faire un soin, il sera pas réceptif. Donc à tout moment, tu pourras juste pas faire le soin technique que t'as à lui faire, juste parce que t'as pas pris en compte que psychologiquement, il fallait parler avec lui avant. Donc en fait, ta relation de confiance, ta relation de soin, elle peut être gâchée juste parce que t'as pas pris 5 minutes pour parler avec lui.
Ça te coûte rien, toi? Ouais.
Non, ça coûte strictement rien. Il y en a plein qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Bon, si. Tu peux toujours trouver le temps. C'est juste chacun ses priorités.
Et mentalement, est-ce que tu as une vraie. Enfin, les gens sont. Quand tu donnes des médicaments, est-ce que ça a plus d'effet quand les gens sont psychologiquement stables ou c'est à peu près tout le temps pareil?
Bah, ça dépend. Il y en a, ils sont très anxieux. Donc ça peut jouer. C'est okay. L'anxiété, c'est hyper important. Ça peut vraiment jouer. Même pour juste donner un médicament, t'en as, tu vas arriver dans une chambre, donner un médicament. Ils ont l'habitude de le prendre. Mais comme ils sont stressés, tu vas passer 15 minutes dans la chambre à leur expliquer en quoi le traitement est utile. Alors que c'est le traitement qu'ils prennent tous les jours depuis 15 ans.
Ouais.
Mais ils sont stressés, ils sont hospitalisés, donc tu dois passer 15 minutes dans la chambre à leur expliquer.
Et ça plaît.
Ouais. des fois, j'avoue qu'à la fin de la journée, c'est un peu long.
Ouais.
Quand t'expliques 15 000 fois que c'est le même traitement, j'avoue qu'à la fin de la journée, c'est un peu long. Mais justement, c'est là que la patience...
Je vais trouver un truc. Vas-y, continue.
C'est là que la patience rentre vraiment en jeu.
Ok. Eh ben, merci. Merci d'avoir parlé un peu de ton métier, un peu beaucoup. C'était très intéressant. On a à la fois parlé de toi et du métier. Donc, pour les gens, c'est intéressant de te connaître un peu et de connaître les facettes un peu de ton métier, comment ça fonctionne. Si certaines personnes veulent faire infirmier, infirmière, peut-être que tu leur as donné des bons conseils, sans le vouloir. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot à laisser? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Tiens.
En vrai, pas spécialement. Je pense que j'ai dit déjà beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est très large et qui est très compliqué à résumer. On s'éparpille beaucoup. Il y a beaucoup de choses.
Et pourtant, je trouve que tu as fait ça très bien. Tu as très bien expliqué. Il n'y a pas eu beaucoup de mots techniques, donc il n'y a pas eu besoin d'explications énormes. Mais c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Même moi, j'ai appris beaucoup de choses. Alors que, bah voilà, donc, comme je disais au début, on se connaît bien. Et voilà, je crois qu'on peut arrêter là-dessus.
Je suis d'accord.
Donc, merci à tous d'avoir écouté. Vous venez de valider un nouveau checkpoint. À dans 2 semaines. Et non, en fait, je ne vais pas m'arrêter là parce que. On a oublié de lui poser les questions pendant qu'elle était là. Donc, j'ai pu la revoir d'ici là et j'ai pu lui poser les questions en off. Donc, je n'ai pas de micro au moment où je lui ai posé les questions. C'est pour ça que je vais juste les répéter ici, en off, pour que vous ayez ces petites réponses après. Et voilà. On peut considérer ça comme un petit bonus. Si vous aimez un peu cette manière de faire, on va peut-être le refaire. Voilà, j'attends vos petites réactions. Et voilà, bisous. Est-ce que le métier d'infirmier va évoluer avec l'IA et dans quel domaine?
Le domaine de l'IA, c'est pas un domaine dans lequel moi je suis très calée, mais je pense surtout si ça doit évoluer dans le métier d'infirmier, ce sera surtout au niveau côté éthique, parce qu'on a énormément de cours et de, enfin, il y a un gros côté éthique, psychologie, sociologie dans les études d'infirmière, et on l'a beaucoup étudié l'IA, mais que dans ce domaine-là, dans le domaine vraiment des réunions éthiques quand on a des situations qui posent vraiment énormément de problèmes, où bah les médecins sont pas d'accord entre eux ou sont pas d'accord avec le reste de l'équipe. Je pense que c'est surtout là-dessus. Ou peut-être au niveau des diagnostics ou de l'annonce, que ça pourrait peut-être varier. C'est vrai que c'est pas le domaine où je suis le plus... C'est pas vraiment mon domaine.
Question de Matisse. Comment gères-tu ton planning? Est-ce qu'il est trop chargé? Est-ce que tu as créé un planning d'organisation pour ne pas être submergé par tout ce qui arrive entre les partiels et les stages?
Alors, ouais, le planning, ça a été compliqué. On nous a toujours dit que l'organisation c'était hyper important et pour le coup c'est vrai, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon organisation parce qu'en première année ça va, c'était facile, enfin, j'étais vachement dans les cours, je sortais pas du tout, je me suis un peu coupée du reste du monde parce que je voulais réussir et que c'était assez compliqué. Et c'est vrai que plus les années sont passées, j'ai continué à m'investir, mais c'était beaucoup plus compliqué. L'organisation, j'ai plus du tout d'organisation maintenant. J'essaye de faire quand je peux, quand j'y suis. Des fois, j'y suis à fond, je travaille pendant 5 heures d'affilée. Et après, les jours d'après, je vais absolument rien faire du tout. Pendant les stages, on essaye de se motiver à rentrer chez soi et travailler après. Mais quand c'est des journées de 12 heures, bah, quand tu rentres chez toi le soir, t'as pas forcément envie de travailler. Sur tes jours de repos, tu dors. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il faut de la motivation. Donc... je pense que moi, c'est avec mes copines. Ça me motive un peu quand je sais qu'elles travaillent. Et on essaye de se motiver à travailler parce que s'il y en a une qui me dit qu'elle n'a pas révisé alors que les partiels, c'est dans 1 semaine, bah, je vais me dire, allez, c'est pas grave. On est deux, on est dans la même situation, ce sera mieux. Alors que, bah non, 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 c'est... Si je ne réussis pas mes partiels, ce serait la cata, quoi.
Et enfin, dernière question. Est-ce que ta formation est payante?
Elle peut être payante pour ceux qui... Par exemple, moi, je suis passée par Parcoursup. Du coup, pour moi, elle n'est pas payante. Il faut juste que je paye 170 euros par an. Il faut juste que je paye 170 euros par an comme pour quasiment toutes les études sup, mais qui sont normalement remboursées quand tu es boursier ou quand tu es financé par un employeur. Et après, il y a la CVEC étudiante que tu es obligé de payer pareil chaque année, qui est de 95 euros, je crois que c'était, ou 100 euros cette année. Je crois que j'ai payé plus cher. Et le problème, c'est que pendant première année, j'étais boursière. Et après, j'ai fait un contrat avec une clinique privée pour qu'ils me financent. Donc tous les mois, j'ai un salaire. Et en échange, je dois travailler chez eux. Donc je travaillais sur mes week-ends, mes vacances, les jours fériés. Donc après, c'est moi qui ai décidé de le faire. C'était pas pour payer les études, c'était pour payer mon appartement. Mais du coup, moi, j'ai décidé de travailler à côté, mais pas pour les études. En soi, les études, elles coûtent, coûtent rien si jamais t'es boursier ou que tu sors du bac ou que c'est juste une reconversion. Normalement, c'était quasiment toujours pris en charge.